Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Madi, au Gabon, Omar Bongo était venu à Paris pour faire un bilan de santé. Karine Franck lui a demandé si ces informations étaient exactes. Réponse en forme de démenti du président gabonais.
Je suis venu accompagner mon fils. Et j'ai été là-bas à la pitié salpêtrière. Si j'ai un sécope à faire, même l'homme le plus heureux, le plus beau, le plus fort, il a besoin parfois de se regarder sur une balance, combien il pèse à fortiori, un chef d'État, comme n'importe qui, peut aussi se préoccuper de sa santé.
Vous allez bien, maintenant.
Vous ne voyez pas ?
Démenti qui ne va pas faire taire la rumeur. Nous sommes en début de l'année 1999. À peine sorti des élections présidentielles qui viennent de reconduire le président Omar Bongo pour un nouveau mandat, que des rumeurs sur sa santé commencent à susciter des questions sur sa succession. Le chef de l'État gabonais, 65 ans, qui vient de nommer un nouveau Premier ministre, Jean-François Toutou Meman, pour conduire l'action du gouvernement, doit rapidement faire face à une situation économique particulièrement difficile. Surtout que depuis quelque temps, le bois gabonais, première richesse historique du pays, souffre de la concurrence asiatique. Le pétrole qui a autrefois fait du pays un émirat pétrolier, pour utiliser l'expression à la mode à cette période, est au plus bas. Et même si la production a augmenté, elle ne permet pas de payer la lourde dette extérieure de l'État qui dépasse désormais les 2000 milliards de francs CFA. Pas d'état de grâce donc pour ce nouveau mandat qui démarre, puisque le nouveau gouvernement est confronté à une grève de 3 mois dans la fonction publique et l'Agence française de développement, l'AFD, a suspendu ses décaissements en faveur de l'État gabonais parce qu'elle n'honore plus ses dettes. Et puis, il y a l'affaire Elf qui enfle et qui de plus en plus se rapproche du président Omar Bongo. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au président Omar Bongo Ondimba. En ce début de la décennie 2000, c'est l'ensemble des médias français notamment qui se passionnent pour ce feuilleton qui éclabousse la classe politique tout entière et au centre duquel est un chef d'État africain. L'affaire Elf. En réalité, tout a commencé par une simple enquête de routine de la part de la commission boursière qui s'intéresse à la société Biderman, dont le chef semble particulièrement proche des partis politiques et singulièrement dépensier. La juge Eva Joly va rapidement se retrouver face à l'un des plus grands scandales de la Ve République. Rien n'arrête plus la machine judiciaire qui avance dans le cadre d'une cohabitation en France, où désormais les arrangements jusque-là acceptés, les pratiques de financement occultes systématiques ne passent plus. La loi du silence installée et respectée par la droite et la gauche depuis des décennies est brisée. Ce qui va permettre à la justice de devenir inarrêtable. Les détournements mis en évidence sont impressionnants. Les dirigeants de tous bords sont touchés par le scandale. On apprend des termes nouveaux très bien mis sur pied. Commission, rétrocommission, pompe dérivative.
Dans les barils qui sont produits, il y a une part de ces barils, une petite infime part, qui va directement au chef d'État. C'est libre à lui d'utiliser.
Pour mettre fin aux enquêtes qui chaque jour font sortir de nouveaux cadavres des tiroirs, qui chaque jour éclaboussent hommes politiques et hommes d'affaires, présidents africains et même la République française qui a mis en place ce système, on décide de privatiser Elf. Le mastodonte est racheté par le petit pousset. La petite mange la grosse. L'affaire est close. Les syndicats de l'entreprise sont atterrés.
C'est vraiment une fusion. Et qui dit fusion, il y en a un qui mange l'autre, quoi. Et on sait très bien qu'il y a toujours des dégâts qui sont énormes. Et en France, il faut bien voir qu'au niveau de l'exploration de production, il y aura des dégâts, sans doute. Au niveau du raffinage aussi, parce que nous savons qu'ils considèrent qu'il y a des surcapacités. Il y a une ou deux raffineries en France depuis longtemps qu'on veut plier. Et au niveau de la chimie, sans doute aussi. Enfin, je veux dire, il y aura de gros dégâts industriels et sociaux dans une opération de ce type, quoi.
Malgré l'enterrement de la compagnie, l'affaire n'est pas pour autant terminée. Les juges n'ont pas dit leur dernier mot puisque les uns après les autres, ils vont perquisitionner et interroger les protagonistes, les acteurs de cet excellent système de corruption. Les langues se délient, mettant trop souvent à son goût le président Omar Bongo en accusation. André Tarallo, l'ex-monsieur Afrique Delf, qui était au cœur de cet énorme réseau, en contact direct avec les chefs d'État, brise la loi de l'omerta qui régnait et évoque quelques services rendus au président Bongo. le chef de l'État gabonais est furieux.
Monsieur Talaro qui est poursuivi pour abus de biens sociaux et détournement de fonds a fait effectivement plusieurs déclarations devant le tribunal correctionnel de Paris par lesquelles il affirme que j'étais l'ayant droit économique des comptes bancaires qu'il y gérait et qui étaient alimentés par des sommes d'argent provenant du groupe Elf. J'ignorais que j'étais, franchement, laissez-moi même rire, à la fois heureux, que j'étais aussi riche. Et je demande donc à M. Talaro de bien vouloir me faire parvenir les sommes d'argent dont j'étais le destinataire et qu'il aurait donc détourné. Parce que c'est bien beau de parler bongo, bongo, bongo. Pour le moment, j'ai gardé mon calme, mon silence. Et comme je l'avais écrit quelque part, que de toutes ces histoires, je ne connaissais rien.
Le président Omar Bongo dit ne rien connaître et pourtant les accusations se multiplient. Il est décidé, cette fois-ci, à se défendre contre cette machine judiciaire, mais également contre ceux qui l'ont désormais en ligne de mire. Il menace de faire sauter la Ve République. Il va finir par publier un livre entretien, Blanc comme nègre, dans lequel il dit sa part de vérité, prudemment mais insidieusement.
Quand j'ai essayé d'écrire un petit bouquin, les Talaro étaient ceux qui ont tremblé.
Blanc comme nègre ?
Ah, ils ont tremblé, tout ce monde-là. Mais je n'ai rien dit. Je suis encore prêt à écrire. Alors,
un deuxième tome.
Et pourquoi pas ?
Malgré les remous, malgré les révélations, malgré quelques condamnations comme celle de Loïc Lefleur-Prigent, le patron d'Elf, et d'Alfred Sirven, ancien directeur des affaires générales du groupe, et d'André Taralo, à de la prison ferme, le président Bongo a tenu. Il ne peut être inquiété pour cette affaire. Pour lui, ce nouveau nom, Total, ne change d'ailleurs rien. Elf ou Total, c'est la même chose.
Donc rien n'a changé dans la façon de traiter les affaires avec la société pétrolière française ?
Non. Il y a toujours eu de la transparence et il y en a toujours. J'ai vu le président des Marais, on s'est rencontrés, il est venu même à Libreville me faire sa visite de courtoisie. Et bien tout s'est très bien passé, c'est tout.
Comme l'avait fait en leur temps monsieur Le Floch-Prigent et monsieur Jaffré ?
Ah, oh, comme d'abord Guillaume, Chalandon, Pécard. Ah, si vous voulez que je vous le cite tout.
En réalité, malgré la bourrasque, malgré les enquêtes et les articles, ce changement, cette privatisation à la hâte d'Elf joue en sa faveur. Maintenant que la machine à financement des partis et des campagnes est morte, c'est lui qui sera directement sollicité. C'est lui le nouveau maître du jeu. Celui dont Paris se servait, celui qui recevait des instructions de l'Élysée, a désormais la main. Il peut influer sur la politique de la France. Les maîtres d'hier, les ordonnateurs, sont désormais ses obligés. Casimir Oyemba, ancien premier ministre gabonais et plus tard ministre du pétrole.
Les grandes décisions concernant Total Gabon étaient prises par le président. Le temps que je suis resté au ministère, bon, le directeur général de Total Gabon et le directeur Afrique, à Paris, au siège, de Total, ils venaient me voir, sans doute, mais avant de venir me voir ou après m'avoir vu, à chaque fois ils allaient voir le président Omar Bongo. Parce que je suis réaliste et je savais très bien que les grandes décisions en ce qui concerne Total Gabon étaient prises par le président Omar Bongo.
Dans la presse française, Omar Bongo, qui a ajouté à son nom celui de son père, Ondimba, passionne, s'il suscite toujours beaucoup de polémiques nourries par cette affaire Elf, sur le plan diplomatique, il reste particulièrement actif, notamment en Afrique où il poursuit ses nombreuses médiations. Il se veut même le porte-parole du continent à la tribune des Nations Unies.
Est-il besoin de rappeler qu'en 1977, ici même à cette tribune, j'avais attiré l'attention de notre organisation sur la nécessité de faire une place à l'Afrique au Conseil de sécurité. En effet, il est paradoxal que l'Afrique continue à ne pas être représentée dans la catégorie des membres permanents, alors même que l'essentiel des décisions du Conseil de sécurité la touche directement. Nous devons donc adapter le Conseil de sécurité à la réalité changeante de notre monde.
Si cette question, ce fauteuil pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité passionne les dirigeants africains, Omar Bongo, comme de nombreux chefs d'État francophones subsahariens, est préoccupé par ce qui se passe au pays de Félix Houphouët-Boigny, en Côte d'Ivoire. Il est désormais le doyen et a une relation particulière avec ce pays secoué par une grave crise politique. Laurent Barbeau ne parvient pas à réconcilier les populations désormais fortement divisées. Omar Bongo est bien sûr à Marcoussi, en région parisienne, où sont réunis les frères ivoiriens pour essayer de recoller les morceaux, de se réconcilier. Mais s'il s'implique dans cette médiation, il n'est pas toujours perçu comme neutre. Il a déjà accueilli au lendemain du coup d'État du 19 septembre 2002 Alassane Dramane Ouattara. Laure Olga-Ngondjou, proche collaboratrice du président Omar Bongo.
Le président de la République n'a pas connu Laurent Gbagbo, président de la République. Il a d'abord connu opposant. Lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle contre le président Houphouët-Boigny, et qu'il perd bien sûr les élections, le président reçoit Laurent Gbagbo ici. Et ils échangent dès ce moment-là. Donc, le président le connaissait. Et lui-même, le président Gbagbo, avait dit « Si un chef d'État m'a aidé, Omar Bongo m'a aidé massivement. » Il arrive aux affaires, la relation est quelque part effectivement chahutée, parce qu'il existe un homme politique pris en affection par le président Omar Bongo, Ondimba, qui est M. Alassane Ouattara.
Sur la question, sur la médiation ivoirienne, ce n'est pas toujours la franche camaraderie entre les deux hommes. Au plus fort de la crise, le président Laurent Gbagbo, réagissant aux propos du président Omar Bongo Ondimba, le traitera de rigolo.
Je ne me vois pas descendre plus bas que terre pour aller parler à Gbagbo. Au Gabon, nous pratiquons le dialogue, la tolérance et la paix. Je voudrais seulement vous dire de rentrer tranquillement chez vous, puisque Gbagbo a dit que le temps, laissons le temps au temps. Je ne suis pas un rigolo et je ne suis pas non plus un donneur de leçons. Mais quand on vient chez quelqu'un tous les jours, quand on vient lui demander des conseils, quand on le suit partout, hors de son pays et hors du pays du président Bongo, cela signifie que Bongo est plus fort, alors rentrez tranquillement.
Entre les deux hommes donc, c'est la crise. Laure Olga-Ngondjou, proche collaboratrice du président Bongo pendant longtemps et même ministre des Affaires étrangères.
Avec l'ancien directeur du cabinet adjoint du président Gbagbo, Sarata, qui est d'ailleurs rappelé à Dieu, nous avons pris sur nous toutes les deux de réconcilier nos patrons.
Assiette.
Il se trouve que je suis dans le hall du palais des conférences et j'entends une personne m'appeler. Je ne voyais pas bien, mais, par mon prénom d'ailleurs. Puis finalement, je me rends compte que c'est le président Gbagbo. Je vais vers lui, je le salue et il me dit, il était derrière une colonne et il me dit qu'il ne peut pas entrer parce que son grand frère est dans la salle. Il ne sait pas comment il va l'accueillir. Il n'ose pas y aller. Et là, j'avoue, à ce moment précis, je ne sais pas ce qui m'inspire, mais je le prends par la main. Et c'est à ce moment, effectivement, que les journalistes d'un média que je ne cite pas prennent des photos et diffusent l'information. Je le prends par la main et nous allons dans le salon des chefs d'État, où se trouvait le patron. Et quand je rentre dans la salle, le président, le Bongo Ondimba avait le dos tourné, et ses pairs qui me voyaient furent interloqués. Évidemment, lui, par réflexe, se retourne et il me voit avec le président Gbagbo. Moi, ce que je fais, je prends sa main, la main, celle du président, et les deux s'enlacent.
En cette première moitié de la décennie 2000, même si le président Omar Bongo Ondimba reste très actif et respecté sur le plan international, en interne, son économie va mal, très mal. Le plan d'austérité imposé ne produit pas encore d'effets visibles. La situation sociale est tendue. Le président gabonais va dès lors multiplier les contacts à travers le monde. En préservant ses relations privilégiées avec Paris, il va se tourner vers quelques partenaires stratégiques, notamment la Chine qui mène une forte offensive sur les minerais africains.
Mais quand vous parlez de la Chine, mais que je sache, il n'y a pas que le Gabon qui entretient des relations avec la Chine. Plusieurs pays européens, les États-Unis d'Amérique et d'autres, et parmi les pays européens, il y a quand même la France. Qui investit en Chine.
Laure Olga-Ngondjou, proche collaboratrice du président Omar Bongo Ondimba, ancienne ministre des Affaires étrangères du Gabon.
Le président devait diversifier. Nous avions ici des contraintes en matière de financement et de développement. Et puis, de mode de développement. La Chine offrait un mode nouveau, innovant, et qui était compatible avec notre environnement, ici en matière de développement de notre socio-économique. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, il y a l'afro-pessimisme et que les ressources sont réduites, les ressources de développement sont réduites. Mais nous avons des impératifs. À partir de ce moment, nous poussons les limites, on fait bouger les lignes et nous allons vers ceux qui ont un regard bienveillant et qui sont nos amis.
Omar Bongo Ondimba, qui était frileux et même carrément réticent à entretenir des relations commerciales et diplomatiques avec Pékin, va nouer de relations fortes avec les nouveaux dirigeants chinois. Le numéro 1, Hu Jintao, va débarquer en février 2004 à Libreville pour une visite d'État de 3 jours. C'est l'étape d'Afrique noire du dirigeant chinois qui va séjourner cette fois-là au Caire, en Égypte et à Alger. Il reviendra bien sûr plusieurs fois par la suite sur le continent. Omar Bongo va effectuer tout au long de son règne 9 visites en Chine. Laure Olgan-Gonjou.
Il rencontre Mao Tse-tung, mais il se lie d'amitié davantage avec Deng Xiaoping. Et c'est à ce moment où vraiment il y a un pic dans les relations entre le Gabon et la Chine.
La Chine fait partie des nations qu'il courtise et qui lui donnent des crédits sans trop de conditionnalité. Mais il multiplie les partenariats. Il est au Japon, en Amérique latine, aux États-Unis d'Amérique, en Espagne, en Allemagne. Bref, il est un véritable VRP de son pays. Malgré cette intense activité, malgré ses nombreux voyages, les rumeurs enflent de plus en plus en cette moitié de la décennie 2000 sur sa santé. On lui attribue tous les maux les plus foudroyants ou les plus honteux. Et bien évidemment, ces réflexions alimentent les guerres des successions qui couvent. Le chef de l'État ironise sur ce qu'il présente comme des fantasmes des opposants.
On m'a déjà donné mort 1000 fois. Et un jour je mourrai, un jour je quitterai. Mais si aujourd'hui je venais démissionner ou si je venais me trouver dans l'incapacité de remplir mes fonctions, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Il peut pas être mon successeur parce que il assure l'intérim pour 45 ou 90 jours et à l'issue duquel il y a des élections présidentielles, lesquelles élections il ne peut pas être candidat, lui, le président du Sénat, c'est tout.
Mais ça pourrait être une indication sur qui pourrait vous succéder, en tout cas être le candidat de la majorité.
Mais soyons patients, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas une pierre. Il faudra qu'un jour je m'en aille. J'ai toute une marmaille de jeunes garçons qui sont là. Et ben, l'essentiel est qu'ils se montrent patients, qu'ils travaillent. Je peux trouver 2, 3, 4, dire ça, c'est bon. Mais c'est le peuple qui est le seul juge.
Le président Omar Bongo Ondimba n'est pas vraiment à l'article de la mort. Il n'est pas prêt de quitter le pouvoir. Seulement, en face, l'opposition s'organise. Une opposition extérieure qui a adopté une nouvelle stratégie pour le discréditer, pour dénoncer la corruption de son régime et l'enrichissement illicite de sa famille. Il faut le discréditer afin qu'il ne puisse plus voyager, que la justice internationale l'inquiète. Mais le vieux président aux affaires depuis presque 30 ans n'a pas dit son dernier mot. Il compte se battre. Mais en a-t-il encore les moyens ? Père Paul Mbabesol, ancien maire de Libreville.
En 2005, lorsque le président Bongo dit, voilà, en 2005, on va faire les élections présidentielles. Et dans ces élections-là, j'ai bien senti qu'il avait envie de partir. 2005.
Vous pensez qu'en 2005, il avait envie de partir ?
Il avait envie de partir. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Il m'a dit, tu vas me soutenir, et si je suis élu, tu seras nommé Premier ministre. Je vous donnerai le document. Il dit, retire ta candidature. Bon, je retire ma candidature. Et ceux qui ont observé la vie politique du pays, c'est que en 2005, mon parti, le Rassemblement pour le Gabon, a été le seul à investir Bongo Ondimba comme candidat présidentiel. Son propre parti ne l'avait pas investi officiellement. Ça, il faut le noter. Donc, nous avions déjà notre accord, voilà, dès que je suis élu, tu vas être nommé Premier ministre jusqu'à la fin de mon mandat. Et je me fais une obligation de te donner tous les moyens possibles pour réaliser ton programme.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Omar Bongo Ondimba dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Archives d'Afrique. à la Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Franchement, je n'ai jamais été opposant, mais je ne sais pas si quand on est opposant, on est censé démentir. On prévoit sa défaite et on met ça sur le compte d'un autre.
Opposant, il ne l'a jamais été, c'est évident. Et après 28 ans de pouvoir sans partage, le président Omar Bongo Ondimba, 71 ans, s'apprête à retourner aux urnes pour un nouveau mandat de 7 ans. Nous sommes en 2005, suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Omar Bongo Ondimba. Quelques années, à Libreville, on parle de la maladie du président. Beaucoup le voient déjà mourant. Et malgré les démentis, la rumeur ne les enfle pas. Pour qu'elle soit aussi insistante, il faut qu'elle s'appuie, qu'elle soit partie d'une source, qu'il y ait une fuite. Et même si les terribles mots évoqués ne sont pas toujours très sérieux, il se passe certainement quelque chose. Mais le chef de l'État gabonais ne souhaite pas l'ébruiter. Casimir Oyemba, ancien premier ministre du Gabon.
J'étais à l'époque ministre de la Planification. Et il s'est tenu à Monterrey, au nord du Mexique, je crois, le sommet des pays non alignés. Et j'étais dans la délégation, et il y avait un déjeuner, un petit déjeuner, pour les chefs d'État uniquement. Et chaque chef d'État devait venir, ne pouvait être accompagné que d'un ministre. Il a décidé que c'est moi qui irais au petit déjeuner avec lui. Donc quand j'arrive dans la villa où résidait le président, à Monterrey, lui-même n'était pas encore descendu de sa chambre, donc j'attends dans le salon, on me fait entrer, j'attends. Bon, il arrive et on se met à bavarder, les choses et d'autres. On était que tous les deux. Il commençait à râler un peu parce que la première dame tardait à descendre, etc. Enfin bref. Il m'a fait ce jour-là une confidence qui m'a étonné. Il m'a parlé de sa santé. Il m'a dit qu'il avait telle affection, mais que ce n'était pas grave.
C'était quoi l'affection ?
Non, mais ça je ne peux pas vous le dire. Non. quelque chose de classique, disons.
Un cancer.
Voilà. Je me suis d'ailleurs demandé. Pourquoi le président m'a parlé de ça? J'aurais préféré qu'il ne me le dise pas. J'avais peur que si un jour il apprenait que les gens blosaient autour de ça, il pouvait croire que c'est peut-être moi qui en ai parlé à quelqu'un.
Le secret est en tout cas bien gardé et le président est candidat à sa propre succession. On vit donc au rythme d'une campagne moins disputée ce coup-ci.
En 2005, lorsque le président Bongo dit, voilà, en 2005, on va faire les élections présidentielles. Et dans ces élections-là, j'ai bien senti qu'il avait envie de partir. J'ai senti. 2005.
Vous pensez qu'en 2005, il avait envie de partir?
Il avait envie de partir. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Alors donc, il m'a dit, tu vas me soutenir, et si je suis élu, tu seras nommé Premier ministre. Je vous donnerai le document. Et là où nous étions d'accord, c'est qu'à un moment donné, tu dois démissionner du gouvernement avec perte et fracas. C'est ça qui était en réalité en marche lorsqu'il est mort. Et ma démission du gouvernement devait avoir lieu en 2009. Et cette démission allait pousser Bongo à prendre d'autres dispositions pour sa succession.
Casimir Oyemba, ancien premier ministre du Gabon, plusieurs fois ministre du président Bongo, ne croit pas qu'il ait eu une seule fois envie de démissionner.
Non, non, je suis convaincu du contraire. Je suis convaincu du contraire. C'est-à-dire que le président Omar Bongo ne se voyait pas ancien président. Le président s'est présenté en 93. Il fallait absolument qu'il se présente. Parce que à l'époque, en dehors de lui, il n'y avait personne d'autre qui pouvait, avec des chances de succès, n'est-ce pas, porter le pays. Et puis, parce qu'il ne voulait pas passer dans l'histoire comme le président qui s'est présenté qu'à des élections où il était tout seul. Il y avait un côté challenge pour lui-même. Après ça, il s'est présenté en 98. Personnellement, ça c'est un avis personnel. Je pense que le patron aurait dû partir après son mandat de 98.
Quoi qu'il en soit, malgré les défections de quelques poids lourds de son régime, tels que Zakari Mboto, qui le quitte pour créer son propre parti et qui se présente contre lui, il a rallié à son camp le père Paul Mba Abessol. Encore une fois, le président Omar Bongo Ondimba est élu pour un nouveau mandat de 7 ans à la tête de l'État gabonais, en 2005. Même si ses deux adversaires, Zakari Mboto et Pierre Mamoundou, contestent sa large victoire, 79,18%, il est conforté. Cette fois-ci, pas de manifestation violente dans la rue. un peu comme si les Gabonais s'étaient résignés à lutter contre son régime. C'est donc particulièrement serein qu'il entame la campagne législative de 2006. Il n'éprouve même pas le besoin de réunir l'ensemble de ses partisans au sein d'un même mouvement. Il ne s'inquiète même pas de la division au sein de la majorité qui se lance en ordre dispersé dans la bataille.
Je suis le chef de cette majorité et si aujourd'hui je dis tel parti ne doit pas se présenter ou ne doit pas présenter des candidats, et je connais cette majorité, il me dira non, le président a fait du favoritisme, il veut encore favoriser le PDG parce qu'il a créé. Alors, j'ai dit, chaque parti présente ses candidats. Une fois les élections finies, eh ben, on se retrouvera dans la majorité. Et quand on dit qu'il y a des grincements des dents, c'est peut-être vrai, mais dans le fond, tout le monde est d'accord. Quant à l'opposition, je pense que les ténors seront élus et je leur souhaite déjà bonne chance.
Ce scrutin législatif est presque gagné d'avance. En réalité, le débat s'est déplacé sur le plan politique. Il n'est plus question que de succession, avec des rumeurs sur son état de santé qui enfle. Les proches et les adversaires commencent à prendre date. Certains redoutent même un coup de force. Et pour mettre un terme à toutes ces spéculations, alors qu'il vient de remporter la présidentielle moins d'un an plus tôt, il annonce déjà sa candidature pour le scrutin de 2012.
Je serai candidat en 2012 si Dieu me donne la force. Alors ça, je vous donne la primaire de mes pensées. Alors, il faut pas que les gens commencent à s'entretuer pour rien, parce que là, c'est du ridicule qui n'a pas de nom.
Ridicule qui n'a pas de nom. Mais cette mise au point ne va pas mettre fin à la guerre de succession qui fait rage dans les rangs même de la majorité. Mais il va remporter haut la main les élections législatives de 2006. Jean Eyegendong.
À ma grande surprise, le chef de l'État m'a appelé un matin. J'étais au bureau vers 10h30. Je me suis présenté au cabinet du président et il m'a annoncé qu'il venait de me nommer Premier ministre.
Sans vous avoir au préalable consulté.
Sans m'avoir au préalable consulté. Je suis une caisse de résonance quand il décide de me nommer et qu'il m'installe comme Premier ministre. Je crois, pour ma part, que le président Omar Bongo m'avait nommé en partie pour se débarrasser un tout petit peu des pesanteurs qui caractérisaient le régime. Il voulait, me semble-t-il, avoir à ses côtés quelqu'un qui ne participait pas à ce système de pesanteurs. Mais alors, de pesanteurs, il y en avait.
Gabon, la seule politique que nous connaissons, c'est la politique du développement. Parce que politique pour politique, on va nous parler de Mao Tse-Tung, on va nous parler de Lénine, on va nous parler de Karl Marx. Tout cela, ce sont des mots. L'Église a constitué en Afrique une sorte d'émulation. C'était le secret de l'Afrique. Et dès lors, nous sommes devenus indépendants, tout le monde qui veut que l'Afrique ne soit pas Afrique, se faufile autour de nous pour nous semer la division.
Encore une fois, le président Elhadj Omar Bongo Ondimba reçoit le pape Jean-Paul II à Libreville. Deuxième voyage du très populaire souverain pontife en terre gabonaise. Preuve pour ceux qui en doutaient à cette période qu'il reste particulièrement respecté et écouté sur le plan international, que son réseau continue de fonctionner. En France, le président Jacques Chirac a été remplacé à l'Élysée par Nicolas Sarkozy, un jeune loup qu'il connaît bien. Il peut ainsi continuer d'influer sur la politique française, de proposer ses amis à des postes ou de faire nommer un ambassadeur à Libreville.
Quand les indicateurs sociaux de ces pays stagnent ou régressent, tandis qu'une minorité mène un train de vie luxueux, la gouvernance est en question. Que deviennent ces revenus pétroliers? Pourquoi la population n'en bénéficie-t-elle pas davantage? La défense de quelques rentes de situation, héritées d'un passé révolu, perdure. La France-Afrique, pourtant obsolète, pourtant moribonde, freine encore la refondation voulue par le président de la République.
Omar Bongo Ondimba est furieux, très furieux. Il ne peut accepter ces propos insultants du secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie qui stigmatisent certains dirigeants africains. Il va peser de tout son poids, de toute sa puissance pour que Nicolas Sarkozy débarque cet insolent ministre, Jean-Marie Bockel, qui a décidé de signer l'acte de décès de la France-Afrique.
Le président Omar Bongo, déjà fortement agacé par la justice française, qui s'intéresse de trop près aux hôtels particuliers, voitures de luxe et comptes en banque qu'il possède en France, explose. C'est Robert Bourgis qui se charge de transmettre à Nicolas Sarkozy la colère du président.
Il me dit ça ne peut pas continuer, il faut que tu dises à Nicolas que moi et les autres, nous ne voulons plus de ce ministre. Je suis allé voir le président de la République à l'Élysée, en présence de M. Guéant, et je lui ai passé le message ferme et non voilé, et voilé de menaces du président Bongo. Et il m'a dit, dis à Omar, comme il l'appelle, et aux autres chefs d'État, que M. Bockel partira bientôt. Il sera remplacé par un de mes amis, et un ami de M. Guéant. Il m'a donné le nom en me demandant de le garder pour moi.
Voilà comment.
Et il m'a dit aussi, c'est important, ce nouveau ministre prendra ton attache, ne sois pas étonné, et quelque part tu l'initieras à l'Afrique.
Bonjour.
Le nouveau ministre ira donc faire ses classes chez Omar Bongo, chargé de l'initier, comme dit Robert Bourgis, au secret franco-africain.
Jean-Marie Bockel est remercié. Il est envoyé aux anciens combattants. Joli placard. Le nouveau ministre, Alain Joyandé, va effectivement se rendre en compagnie de Claude Guéant, le secrétaire général de la présidence de la République française, à Libreville, pour faire allégeance au président Bongo. Encore une fois, il a influé sur la politique française. Un président africain qui fait virer un ministre en France, ce n'est pas commun. Mais, depuis quelque temps, c'est une autre affaire judiciaire, celle-là, qui inquiète et rend furieux le président Omar Bongo Ondimba, celle dite des biens mal acquis. Tout commence en réalité en 2007 avec la publication du rapport CCF des terres solidaires, bien mal acquis profite trop souvent, la fortune des dictateurs et les complaisances occidentales. Les auteurs y passent en revue les avoirs détournés de plus de 30 dirigeants de pays en développement, autant d'argent qui ne sera pas investi dans la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres secteurs. Suite à ce rapport, Sherpa a conduit sa propre étude afin d'exploiter les voies judiciaires qui pourraient être utilisées pour appréhender de tels avoirs lorsqu'ils sont localisés sur le sol français et à terme les restituer aux nations spoliées. Or, le seul instrument de droit international permettant de s'attaquer à ce fléau, la Convention des Nations Unies contre la corruption, dite Convention Mérida, est conçu comme tous les instruments conventionnels internationaux, par les États, pour les États. Autrement dit, si la Convention de Mérida renforce considérablement les moyens d'action pour le recouvrement des avoirs volés, ces moyens ne sont à la disposition que de la personne morale, qu'est l'État, victime. En mars 2007, Sherpa, Survie et la Fédération des Congolais de la Diaspora dépose plainte devant le procureur de la République de Paris contre les familles dirigeantes de l'Angola, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et du Gabon, estimant que les patrimoines immobiliers considérables qu'elles possèdent n'ont pu être constitués au moyen de leurs seuls salaires et émoluments. La plainte repose sur le chef d'inculpation de recel de détournement de fonds publics qui incrimine le fait de détenir sur le sol français des biens qui ont été acquis de manière illégale. Une enquête préliminaire est alors ouverte. Elle confirme la plupart des allégations et révèle en plus l'existence de nombreux autres avoirs immobiliers et mobiliers, le rôle joué par les intermédiaires, banquiers, avocats, ainsi que des transactions pour le moins suspectes. La presse se saisit de cette affaire. Il n'est plus question que des biens et des détournements de ses dirigeants. Certains exigent carrément l'arrestation des chefs d'État incriminés et leurs avoirs. Le président Nicolas Sarkozy ne peut éviter cette question que lui pose sans cesse la presse qui redoute le bâillonnement de la justice.
Il y a une enquête préliminaire qui a été engagée avant que je ne devienne président de la République. Et bien que la justice fasse son travail. Mais je ne vois pas au nom de quoi ça devrait impacter les relations entre notre pays et le Gabon. Si à chaque fois qu'il y avait des enquêtes judiciaires, il fallait qu'on arrête nos relations, on ne les aurait pas arrêtées simplement du côté africain. Partant, attendez que la justice fasse son travail, et on verra bien. J'ajoute que j'aimerais qu'on soit juste avec nos amis africains. S'agissant du Gabon, je ne pense pas que ce soit le pays qui ait le plus à rougir du fonctionnement de la démocratie interne. Par la pluralité de la presse, par la pluralité des forces politiques.
À Libreville en tout cas, au palais du bord de mer, la colère gronde. envoie dans ce feuilleton médiatico-judiciaire la main de quelques anciens amis politiques français de gauche et de droite. Un caillou dans la chaussure de Nicolas Sarkozy qui ne peut pas grand-chose pour arrêter cette machine. Le président Omar Bongo est furieux devant les articles qui se multiplient, qui montrent ses hôtels particuliers, ses résidences à travers le monde et ses avoirs bancaires. Malgré ces résultats, l'affaire est classée sans suite en novembre 2007, le procureur de la République ayant considéré, je cite, que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Pourtant, en 2008, Transparency International France et un citoyen gabonais déposent avec l'appui juridique de Sherpa une plainte avec constitution de partie civile dans le but d'obtenir l'ouverture d'une information judiciaire. Une nouvelle procédure qui arrive à un moment où le chef de l'État gabonais, 73 ans, semble affaibli à la fois par la maladie de sa femme Edith, qu'il aime profondément, et par le mal dont il souffre lui-même, un mal dont on ne parle pas. Même si physiquement, il montre quelques signes de faiblesse et est frappé d'une demi-surdité, une oreille qui l'empêche de vous écouter lorsque vous êtes assis du mauvais côté, ce qui par moments le rend un peu irascible, même s'il se dit déterminé à se battre contre cette adversité, contre ces organisations qui ont juré de le faire tomber, il semble touché à son talon d'Achille. Sa femme est malade, très malade, et cela va être déterminant pour la suite et la fin de son long règne, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'Archives d'Afrique consacrée au président LH Omar Bongo Ondimba. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Archives d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous poursuivons la conversation sur cet autre espace en vous donnant rendez-vous sur l'antenne pour la suite et la fin de la série. La semaine prochaine, même heure, même fréquence. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons une bonne fin de week-end à l'écoute des programmes de Radio France Internationale. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFI. À très vite.